Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tiens, c'est ça que je voulais te demander la dernière fois. Le fait de passer, bon pas directement, mais d'avoir joué à Paris et d'aller à Marseille, est-ce que d'un point de vue image, c'est un truc que tu as dû gérer? Tu t'es préparé à un peu de bad buzz, un truc comme
ça? Ouais, déjà, avant de choisir d'aller à Marseille, j'ai réfléchi, j'ai mis tout un mois avant de dire d'accepter ou pas, parce que je savais qu'il allait y avoir des répercussions. Mais il faut s'y préparer, se préparer au fait que j'ai joué à Paris, il y a eu des précédents aussi qui n'ont pas été fructueux, un petit peu l'appréhension. Mais ouais, je me suis préparé un peu et après, je savais que c'était les performances qui allaient faire la diff.
Le côté performance, il est indéniable dans ta réputation dans le foot, mais tu as tout un univers d'image à travailler quand même. Et j'imagine qu'aujourd'hui, en plus, avec les nouvelles méthodes de communication, les réseaux sociaux, etc., les mecs ils doivent être d'autant plus préparés à gérer ça.
Ouais, alors moi, j'ai pas fait trop d'erreurs de communication, mais effectivement, je vois ce que tu veux dire. Il y a des bad buzz. Comment tu négocies les bad buzz? Comment tu les gères? Justement, si tu veux, on peut aller voir des amis à moi qui bossent pour Backbone Consulting et qui sont spécialistes un petit peu dans la gestion et dans la...
La réputation ?
Dans la réputation.
Ça te dit d'y aller ? C'est parti, on y va.
Let's go.
Alternative Football. Alternative Football.
Alternative Football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Crois-moi, ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative Football. Alternative Football, le podcast hors terrain de SoFoot, présenté par Édouard Cissé et Mathieu-Lille Palette.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode tant attendu, en tout cas par Édouard et moi, oui, d'Alternative Football, avec toujours mon compère, mon comparse, Monsieur Cissé. Salut Édouard.
Bonjour Mathieu.
Comment vas-tu?
Très bien, et toi?
Bah écoute, ça va plutôt pas mal, d'autant qu'aujourd'hui, on est en double bonne compagnie. Oui. Parce qu'une fois n'est pas coutume, on reçoit deux invités plutôt qu'un.
Oh là là là.
Et nous recevons donc Véronique Reissoult.
Bonjour.
Bonjour Véronique.
Bonjour Véronique.
Et Victor Bourri.
Bonjour Edouard, bonjour Mathieu.
Victor.
Très heureux de vous recevoir tous les deux.
Très content d'être là tous les deux.
Alors, on fait pas les choses nécessairement dans l'ordre, dans Alternative Football, donc on va pas... On ne va pas vous présenter de manière très formelle. On va d'abord mettre les pieds dans le plat avec le sujet. Mmh. Et puis, au fur et à mesure du podcast, on va apprendre à vous connaître et ça permettra de vous présenter.
Alternative Football.
Alors aujourd'hui, on va parler réputation, on va parler image. Et pour ce faire, on va prendre un joli prétexte, puisqu'il y a en ce moment une compétition de football relativement importante.
Ah ouais ?
Qui s'appelle l'Euro. Comment capitaliser sur une victoire en Coupe du Monde ou Euro? Et pour vous faire une passe décisive, introduire le sujet de manière un peu plus formelle quand même, un joueur champion d'Europe vient vous voir après la victoire et vous demande de gérer son image, sa réputation. C'est quoi votre feuille de route?
Alors, il n'y a pas de feuille de route type. Si vous êtes un joueur de foot et que vous venez nous voir, on va d'abord vous demander pourquoi est-ce que vous voulez travailler votre réputation. Est-ce que c'est parce que vous voulez être très visible et que votre sujet, c'est un sujet de marketing? Est-ce que c'est parce que vous voulez soutenir un collectif? Est-ce que c'est parce que vous avez une cause qui vous tient à cœur et que vous voulez lui donner de la visibilité? Enfin bref, il y a plein de raisons possibles. Donc avant de donner une feuille de route, eh bien on va se poser la question de voilà, pourquoi, comment, quel est l'objectif? Et en fonction de ça, on pourra définir une feuille de route.
Alors, vous avez tous les deux, et d'ailleurs nous aussi, évoqué la réputation. Qu'est-ce que c'est? Mais surtout, est-ce que le terme image, c'est une vulgarisation de la réputation, ou est-ce que l'image et la réputation sont deux choses différentes?
Alors, l'image est une composante de la réputation.
D'accord.
En fait, la réputation, c'est la somme de votre notoriété et de votre image. Donc vous avez deux leviers sur lesquels il faut travailler, parce que vous pouvez avoir une très bonne image et une faible réputation, enfin une faible notoriété, ou réciproquement.
C'est mon cas, ça.
Voilà. Alors l'avantage, c'est qu'il y a des recettes.
Pas de... voilà.
Voilà.
Tu évalues ta notoriété comme étant plutôt faible, Edouard Cissé.
Oui, quand même.
C'est vrai?
Ouais, j'imagine, ouais.
Oui, non, je pense pas quand même. Mais bon.
Ça dépend d'où on se place.
L'avantage, c'est qu'en fait, il y a des techniques pour travailler les deux sujets. Le plus facile, c'est la notoriété, paradoxalement. Parce que la notoriété, il y a une recette qui est simple. C'est ce qu'on appelle la couverture et la répétition. Ça veut dire quoi? Il faut que vous soyez vu dans un maximum d'endroits le plus souvent possible. Alors, si vous êtes un produit, bah, vous faites de la pub. Et vous achetez de l'espace et vous essayez de passer dans un maximum de médias le plus souvent possible. Quand vous n'êtes pas un produit, que vous êtes une personne, il va falloir faire parler de vous dans un maximum d'endroits et le plus souvent possible.
D'accord, donc si avec mon...
Ça, c'est la notoriété.
Pardon, allez-y pour l'image.
Non, allez-y. Non,
parce que du coup, dans mon esprit très, très simple... Si non, je
dis
dire,
pas ça, dis pas ça.
Faites du mal.
Vous l'avez tous les deux.
Mais c'est pour mieux ensuite, après.
Ouais, c'est ça, après, on se la péter un peu après. D'accord. Voilà.
Donc là, on pourrait résumer en disant que la notoriété, c'est presque la quantité, et l'image, c'est la qualité.
Exactement.
Pas si simple que ça.
Pas si simple que ça. Voilà. D'accord. Donc la quantité, et la quantité, il y a des recettes. Voilà.
D'accord.
C'est relativement classique. Ça ne veut pas dire que c'est rapide, mais voilà. On sait qu'il faut qu'on parle souvent de vous et dans le plus d'endroits possible.
Permettez-moi de revenir tout de suite plus proche du terrain. Et je vais d'ailleurs revenir vers toi, Edouard.
Vas-y.
Le sujet de ta réputation et de ton image, quand tu étais encore actif, non pas que tu ne l'es pas aujourd'hui, mais encore actif sur le terrain, est-ce que c'est des sujets qui étaient abordés dans ton club? Est-ce qu'on vous en parlait? Ou est-ce que c'est simplement un média training? Est-ce que le sujet a été amené? Je précise ma question. Aujourd'hui, on a l'impression que dans le club, c'est induit parce que effectivement, les joueurs sont tellement exposés qu'ils vont engager l'image du club. À ton époque, il y avait moins cette exposition parce que les réseaux sociaux soit n'existaient pas, soit on était au balbutiement. Est-ce qu'on vous faisait quand même prendre conscience de l'importance de l'image?
Ouais, tout à fait. Enfin, moi, j'ai fait des clubs médiatiques. Donc, très tôt, on m'explique que je ne communique pas que pour moi, mais pour l'équipe, pour le club. Donc, j'avais une communication corporate. Et on faisait bien comprendre qu'il fallait que tu l'aies de manière... il faut que ce soit bien, bien corporate. Sitôt qu'il y avait un écart, tu te faisais taper sur les doigts, c'était logique.
On appelait ça les éléments de langage.
Les éléments de langage. Donc, en fin de compte, après, c'est langue de bois, et c'était chiant. Donc, bon, moi, pour sortir... Pour tirer mon épingle du jeu, j'essayais d'amener un petit peu d'humour, dire des choses à demi masquées, tu vois. Mais globalement, oui, on fait toujours attention. Et alors, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais il y avait les médias, les journaux, ils avaient l'équipe, le journal de l'équipe avait beaucoup de puissance, maintenant un peu moins. Mais oui, on faisait attention parce qu'on savait pertinemment que s'il y avait un mot qui était de travers, on avait le lendemain un bad buzz, Bad buzz, ouais.
J'imagine, je me retourne vers vous, Véronique et Victor, on a l'impression que c'est pour les clubs aujourd'hui, c'est ça qui va être difficile. C'est-à-dire qu'il y avait un contrôle qui était beaucoup plus simple avant, parce qu'effectivement, quand Edouard, via le club, donne une interview à l'équipe, il y a un attaché de presse qui est là, qui peut contrôler. Aujourd'hui, l'accès aux fans est beaucoup plus... aux clients ou aux fans, on l'appelle comme on veut, est beaucoup plus direct. On est à une époque où le robinet d'eau tiède, c'est plutôt mal vu d'ailleurs. Il faut prendre parti, il faut avoir des valeurs, il faut assumer, entre guillemets, l'image. Ça complexifie quand même beaucoup le rôle du club dans la gestion de l'image. Est-ce que c'est des sujets qui vous sont aussi amenés plus par des institutions que par des individus? C'est-à-dire, est-ce que sur la réputation, les clubs viennent vous voir, par exemple?
Il y a des acteurs qui accompagnent les clubs, qui accompagnent les joueurs en direct, mais c'est souvent chez ces acteurs-là qu'on retrouve les biais, justement, qu'Edouard citait, à savoir une communication sous contrôle, avec des techniques préétablies sur la manière dont il faut le dire, l'amener, etc. Et en fait, ce qu'il y a de pire, c'est qu'en fait, ça coupe toute forme de sincérité chez le joueur. Et on voit, c'est à ce moment-là que les discours standardisés, justement, un peu caricaturés, justement, par certains médias dans la prise de parole des joueurs. Et ça, une fois de plus, ça dénature. Donc, l'erreur que font les clubs, c'est d'imaginer Ou alors les fédérations, les ligues, etc. Je ne parle pas seulement en France. C'est d'imaginer qu'en fait, on va pouvoir avoir un modèle de joueur standardisé. Mmh. Le joueur, en fait, l'intérêt qu'a le club, par exemple, si on prend l'exemple du club, c'est plutôt d'être dans l'écoute du joueur, d'accompagner le joueur à s'exprimer, à s'engager. Et après, évidemment, qu'il faut que ça soit aligné en lien avec les valeurs du club. On ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Mais il y a ce travail d'écoute et de sincérité qui manque encore chez certains.
On a vite envie de rentrer dans le foot et de poser des questions sur le foot basique.
Mais foutons.
Juste avant de faire ça, j'ai peut-être une dernière, à moins que tu en aies, Edouard, question un peu plus structurelle. Donc, vous nous avez dit, la première question, c'est le pourquoi. Une fois que j'ai mon pourquoi, comment je construis ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas effectivement de feuille de route, mais j'ai un pourquoi qui a été défini. Est-ce qu'il y a quand même des étapes à respecter ? C'est-à-dire, d'accord. Et c'est relativement standard quand même ? C'est des choses que vous appliquez de manière récurrente ?
On fait toujours un audit.
D'accord.
Quel que soit le sujet d'ailleurs, que ce soit de la crise ou que ce soit la réputation à construire, on fait toujours un audit parce que d'abord vous êtes persuadé d'un certain nombre de choses et quelquefois vous vous trompez. Vous disiez tout à l'heure, je ne suis pas connu. Je pense que si on fait un petit audit, vous ne devriez pas être totalement inconnu. Donc voilà, on va faire un audit. Cet audit, ça permet de faire un état des lieux. C'est un peu comme un médecin. Je ne voudrais pas qu'on file indéfiniment la métaphore médicale. Mais comment ça s'appelle, Backbone, voilà. Ouais. La vanne, on l'a fait souvent entre nous, on dit faut qu'on arrête. Mais voilà, j'ai besoin de faire des radios, j'ai besoin de savoir ce qu'il en est, j'ai besoin de comprendre votre environnement, votre alimentation.
C'est vrai?
Alimentation.
Ça va jusqu'au bout,
ceci dit, en période de crise, ça m'est arrivé de recommander à des clients de manger des protéines parce que ça allait dur. Mais c'est un autre sujet. Non, mais globalement, on a besoin de faire un état des lieux. Toujours. Vous m'avez dit pourquoi vous voulez travailler votre réputation et après, j'ai essayé de comprendre dans quel milieu vous évoluez, qui sont vos concurrents, quelles sont vos difficultés, quelle est votre image, quelle est votre notoriété, quels sont vos ambassadeurs, est-ce que vous avez des détracteurs, est-ce que vous avez des ennemis avérés, des ennemis supposés, est-ce que vous avez des amis avérés.
C'est passionnant en fin de compte.
Ce qui est extrêmement important, c'est de mélanger le quanti et le quali. Vous avez dit tout à l'heure le quanti qui était la notoriété et le quali qui est l'image. On a besoin des deux. On a besoin d'utiliser des outils. On a besoin aussi de mener des interviews, de discuter avec les uns et les autres.
Les outils, ce serait quoi
Alors, il y a plein d'outils. Alors, on utilise des outils comme Talkwalker, comme VisiBrain, comme voilà.
C'est quoi, social
listening. Ça vous permet de savoir et de massifier ce que aujourd'hui, quand vous regardez les réseaux sociaux, en fait, vous regardez votre timeline. Okay. Vous voyez qu'un tout petit bout. Et même si vous dites, alors je vais regarder le hashtag d'un match de foot, par exemple. En fait, il y a tellement de messages. Quand vous avez 500 000 messages en 2 heures, à moins que vous soyez un champion incroyable, et là, c'est un autre sujet, c'est impossible de les lire. Et Monsieur Data peut nous le confirmer, c'est compliqué. Il faut massifier. Donc nous, on a des outils qui permettent de massifier, qui permettent de sortir les mots-clés, d'identifier qui parle le plus souvent, de quoi. On peut constituer des corpus en disant, tiens, je voudrais les fans de tel club, je voudrais les fans... Enfin voilà, bref, on analyse,
Et souvent, il y a des joueurs qui peuvent s'arrêter sur certains... tweets ou commentaires, etc., qui les blessent profondément, donc qui ont une image un peu supposée de ce qu'on peut penser d'eux, etc.
Alors
et en fait, notre rôle aussi, c'est de pouvoir avoir la big picture et de leur aider à comprendre, en fait, quels sont les acteurs qui parlent d'eux, en quoi. En fait, c'est une population peut-être très âgée qui a cet avis-là, parce qu'on ne sait pas qui y a derrière les comptes. Donc, on les aide vraiment à décrypter et apporter une analyse là-dessus.
C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a forcément, une fois que l'audit est réalisé, des gros décalages entre la perception et la croyance
souvent,
de la personne et la réalité. Et en ça, est-ce que. Parce qu'on a tendance, je pense, à oublier que malgré le fait que les réseaux sociaux, c'est aujourd'hui ultra populaire, c'est quand même une fraction de la population si on prend en volume.
On va dire que c'est pas représentatif, mais c'est largement significatif.
C'est une tendance.
Et ensuite, ça dépend des tranches d'âge. Ouais. On va dire que sur les jeunes, ils sont tous là. Après, ils s'intéressent pas tous au foot, ils sont pas tous sur les mêmes réseaux. Quelquefois, c'est des réseaux fermés. Enfin, les choses sont assez variées. L'intérêt de massifier, de regarder ainsi, c'est aussi d'arriver à identifier quels sont les sujets sur lesquels votre personne et plus en résonance, quels sont les détracteurs, qui sont ceux qui pourraient être vos alliés, quels sont ceux qui pourraient reprendre vos messages.
C'est énorme,
Après, on va analyser, on va essayer de comprendre dans vos concurrences, ils se positionnent sur quoi et qu'est-ce qui fait plus réagir. Est-ce qu'il y a, on est sur un podcast, donc je peux pas vous le montrer. De toute façon, on n'est pas là, mais on fait des cartographies qui sont assez jolies. Quand on les regarde, on se dit, ah, c'est joli, c'est des nuages de toutes les couleurs. En fait, nous, ça nous permet d'identifier qui parle avec qui influence qui, pour pouvoir remonter le fil. Alors, c'est particulièrement utile en période de crise, mais quand on construit une réputation, bah, ça permet de savoir à qui il faut parler en premier, de regarder dans ces fameux nuages de toutes les couleurs, est-ce qu'il y a des sujets qui se mélangent, est-ce que il y a des communautés très distinctes, est-ce que vous êtes aimé et apprécié par un groupe, un collectif homogène, ou en fait vous avez peut-être des gens qui vous suivent sur des sujets très différents. Il y en a peut-être qui sont toujours dans la nostalgie de votre carrière de footballeur, d'autres qui vous suivent en tant qu'entrepreneur, d'autres voilà. Pourtant, c'est la même personne, mais c'est pas les mêmes personnes, ils parlent pas de la même chose. Et donc, on va regarder quel est le plus important. Et si vous nous aviez dit, j'aimerais bien, quoi. On oublie un peu que j'étais footballeur, mais je voudrais parler de mon succès professionnel et des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Ben, on aurait essayé de trouver les gens qui parlaient de ça. On vous aurait plutôt conseillé d'aller sur LinkedIn. On vous aurait dit qu'il faut faire des vidéos montrant vos succès. Enfin, bref, voilà.
Ouais, good. Okay. Bah, tu vois, j'ai pris des notes.
consultation gratuite pour voir si c'est upgrade.
Alternative football.
Comme promis, je rentre un petit peu dans le foot. Surtout, n'hésitez pas à me corriger si une nouvelle fois je dis des bêtises. Il y a quelque chose qui, encore une fois, on en discutait. C'est probablement du domaine de la perception, mais vous travaillez, vous êtes amené à travailler avec des hommes politiques, des dirigeants d'entreprise, etc. On a tendance à penser que chez le footballeur et le sportif de manière générale, il y a la notion de performance qui, parce qu'elle est beaucoup plus exposée et potentiellement comprise, elle apporte une forme de fragilité dans l'image. Est-ce que ça se vérifie ou est-ce qu'en fait pas du tout et la performance, en fait, on peut s'en départir quand on travaille la réputation de quelqu'un?
Bah, d'un sportif professionnel de haut niveau, c'est difficile de se détacher de la performance, ça c'est sûr. Bon, en revanche, c'est pas la performance qui va conditionner l'ensemble de la réputation. Mm-hmm. Comme on disait tout à l'heure, ce sur quoi s'engage le joueur, que ce soit des faits de jeu, de sa manière d'être intégré au sein de l'équipe, comment il commente aussi ses matchs, ses performances, quelles sont ses prises de parole, l'écho sur lequel il s'engage à côté. Enfin, il y a différents sujets. Même aujourd'hui, il y a des joueurs qui s'engagent sur les sujets de plus en plus, on va dire même politiques. Ça, c'est totalement constitutif de la réputation.
Ce qui est intéressant, c'est de se dire, parce que souvent on se dit, ben voilà, un sportif, c'est pour ses performances. Bien sûr que ses performances, elles jouent. Enfin, ça serait complètement, ça serait débile de vous dire le contraire. En revanche, c'est pas parce que vous avez des mauvaises performances que vous aurez une mauvaise réputation. Sauf si ça dure beaucoup trop de saisons. Ouais. Ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, vous avez une bonne réputation. Vous êtes quelqu'un, comme disait Victor, voilà, d'engagé, de plutôt positif. Enfin, en gros, les gens vous aiment bien. Vous vous plantez, un soir où, voilà, vous avez pas été bon. Personne va dire, enfin, votre réputation va pas être entachée. Peut-être que sur le moment, une petite colère pourra s'exprimer. tout au plus, vous avez déçu les gens parce que il y a ça aussi. Vous êtes pas, enfin, un joueur, c'est pas un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui, enfin voilà, vous avez des fans, vous avez des supporters, vous avez des gens qui sont dans la passion, qui vous suivent complètement. Donc c'est un peu irrationnel par moment. Mais ils vous en voudront pas si, voilà, vous avez une bonne image par ailleurs. Votre performance ne va pas abîmer votre personne. En revanche, l'inverse ne marche pas. C'est-à-dire que le champion toute catégorie, qui a toujours des performances au-delà du raisonnable, mais qui est parfaitement antipathique, qui prend tout le monde de haut, bah, le jour où sa performance va être moins bien, donc par exemple Zlatan, le jour où il est pas bon, ah ben oui, là ça va pas bien se passer, parce que vu qu'il nous parle que comme ça, qu'il nous prend de haut et qu'il est pas très aimable, et qu'on n'a pas l'impression qu'il est très très engagé dans la société et que c'est Monsieur Bienveillance, ouais. Ben oui, lui, c'est un sujet, sa performance.
On a un exemple tout récemment avec Djokovic, qui, malgré ses performances, il n'y arrive toujours pas, malgré le fait qu'il se positionne sur aussi des causes, etc. Il y a peut-être un sujet de sincérité, de comment et à qui il veut adresser ses messages, qui fait qu'aujourd'hui, c'est un champion incompris quelque part. Mmh. Et,
ouais. Alors, ça va faire sourire d'or, parce que je reviens toujours un petit peu à ça dans quasiment l'ensemble des podcasts, mais à quel point le marché, et par marché j'entends géographique, est important dans ce que vous faites, parce que la perception de la personne et de ce qu'on aime, c'est très propre à la culture aussi. Typiquement, l'image en France, justement, avec beaucoup d'aspérité, le champion qui est à la Zlatan, qui est un peu trop franc, un peu trop direct, c'est pas effectivement très bon pour le marché français, ça peut bien marcher ailleurs. À quel point vous prenez en compte ça dans votre travail?
tout le temps.
C'est ça.
Ouais. Tout le temps, quand vous disiez qu'on étudie le contexte, ben, le contexte, c'est entre autres le pays où vous êtes.
Pays,
voilà. Après, dans le cas de Zlatan, non, c'est pas parce que à l'étranger, ils aiment pas plus le fait. Je répondais à la question de votre performance.
Bien sûr. Ouais.
Pareil, hein, Zlatan, dans les pays anglo-saxons, s'il foire, ouais, ça va pas le faire, quoi.
Ouais.
Donc, voilà. Et après, il n'y a pas tant de différences culturelles que ça. Les gens imaginent toujours qu'il y a des grands trucs. En revanche, votre notoriété n'est pas la même, votre image n'est pas forcément la même, mais c'est pas la culture en soi. La seule vraie différence, c'est que dans les pays anglo-saxons, et Victor vous l'expliquera mieux que moi, mais pour les footballeurs, il y a plus, et c'est vrai pour les chefs d'entreprise aussi, on peut plus facilement parler d'autre chose que
c'est
de
ça,
son métier. Un footballeur qui parle d'autre chose, en Angleterre, il n'y a aucun problème, ouais. Voire même, on a des cas magnifiques d'action.
Ouais, ouais,
des trucs vraiment. Vous prenez un chef d'entreprise anglo-saxon, il peut parler de plein de choses. Quand il prend position, je ne sais pas moi, Branson, quand il s'exprime, il dit des trucs incroyables. Ouais. Vous êtes en France, vous êtes gentil, mais vous êtes chef d'entreprise, c'est quand même bien de parler de votre sujet. Vous êtes joueur, c'est quand même bien de parler
en
foot.
En France, il y a quand même une culture de, si c'est
ça,
genre de foot, c'est joue et tais-toi.
Ouais, joue et tais-toi.
Sauf qu'aujourd'hui, une fois de plus, grâce à la perméabilité des frontières du fait des réseaux sociaux, les joueurs, les jeunes fans voient ce qui se passe à côté, voient ce qu'a fait Rashford, voient comment Rashford il a pu faire piller le gouvernement britannique, voient ce qui se passe aussi aux États-Unis. En fait, le fait de s'engager, de s'exprimer sur d'autres sujets que ceux du terrain, ça inspire.
Ouais, je
regardez John Water, c'est assez révélateur.
C'est exactement ce que j'allais dire.
Aux États-Unis, ça fait polémique quand même. Hein.
Ah, bien sûr, Kaepernick, à la base, c'est pas eux.
Mais,
il travaille plus depuis plusieurs années quand même.
Voilà. C'est compliqué. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne choque personne qu'un footballeur ou un sportif prenne des positions politiques ou prenne des positions sociétales. En France, c'est plus compliqué. On le voit là d'ailleurs. Mais ça bouge, c'est pour ça qu'on
c'est
peut
qu'il y a
pas...
Il y a un mouvement vraiment qui est en route et que certains, parce que on donne certains hommes politiques acceptent pas ou certains médias aussi donnent moins la parole. Enfin, il y a cette culture-là, sauf que ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'il y a aussi un effet générationnel et qu'en fait le mouvement est en marche et que qu'ils le veuillent ou non, les joueurs vont le faire et c'est comment l'intelligence que peuvent avoir les élites en France, c'est de comprendre ce mouvement-là et de l'accompagner au mieux. Quoi.
Complètement, pardon de vous couper, mais j'ai longtemps moi vécu à l'étranger et je travaille à l'international, mais justement à l'époque de Colin Kaepernick, donc la première fois pas la première fois aux États-Unis que ça arrive, mais le fait de s'agenouiller pendant l'hymne est le symbole de poser le genou à terre. Je me rappelle qu'à l'époque, je me dis, ça c'est effectivement très anglo-saxon, ça arrivera jamais en France aujourd'hui. Et on a l'impression qu'avec l'ouverture aujourd'hui que permettent les réseaux sociaux, les nouveaux moyens de communication, c'est beaucoup plus poreux en fait. C'est-à-dire ce qui va se passer, ce qui va marcher dans les autres pays arrive beaucoup plus vite en France ou dans d'autres pays. Et donc on se retrouve effectivement ce soir avec une équipe de France qui va exprimer un avis politique. Via une contestation de l'équipe et ça effectivement c'est j'imagine que dans votre métier ça change quand même beaucoup de choses parce que du coup il faut être beaucoup plus au fait de l'agilité avec laquelle la manière dont on gère l'image se propage.
C'est plus fatigant, je vous
confirme. Ouais.
Mais après, c'était juste pour vous dire qu'il n'y a pas tant de différences culturelles que ça, celles qui existent sont en train de se lisser. Après, il y a une réalité, c'est très spécifique aux joueurs de foot. En plus, c'est vraiment spécifique aux joueurs de foot, c'est-à-dire qu'on part quand même du principe que ce serait gentil qu'ils ne s'expriment pas trop, parce que en France, bon, ils ne sont pas malins, les gars, donc ce serait quand même bien qu'ils ne parlent pas. Sauf que ça ne marche plus comme ça. On ne peut pas leur dire, et d'un côté, bon, tu joues bien, et puis quand il y a la conférence de presse, t'es gentil, tu t'exprimes à peu près bien. Et puis, t'es gentil sur les réseaux, faudrait que tu montres que t'es un good guy. Et en même temps, tu peux pas exprimer ce que tu penses, ça marche plus, quoi.
Mais non, parce que les joueurs le demandent.
Les joueurs le demandent.
En France, l'UNFP, le syndicat des joueurs, ont sondé leurs joueurs.
Et les types sont intelligents.
Il y a une vraie demande, en fait, d'être accompagné sur ces sujets-là, hors de terrain, et de pouvoir au mieux être accompagné pour justement soutenir la cause. Ils savent qu'ils ont une influence énorme sur la jeunesse et plus largement la société. C'est comment. En ayant réussi à être à ce niveau-là, on sait tout ce que ça demande, Edouard, tu le sais, c'est comment ils peuvent le rendre aussi et comment ils peuvent être au mieux accompagnés pour le rendre.
Il y a un vrai shift depuis que j'ai arrêté, donc j'ai arrêté en 2012. En 2012, on servait un peu de nous, on était les hommes sandwich un petit peu.
Oui, c'est ça.
Il y avait une association, ce serait bien que tu fasses partie de l'association. Bon, t'es un petit peu ému de ce qui se passe, donc tu le fais, mais on sert de toi. D'accord. Et sitôt que tu veux défendre des choses, ou tu voulais défendre des choses, non, attends, t'as pas trop le temps, on joue tous les trois jours, ça va te prendre du temps, ouais. Reste focus.
Alternative football.
Est-ce que vous avez aussi des cas où quelqu'un vient vous voir et dit « Moi, mon objectif, il est de signer avec tel sponsor ?»
Oui.
D'accord. Comment on le gère, du coup ?
Ben, on travaille pas avec lui. Non. oui, ça peut arriver. Alors, je veux signer avec tel sponsor.
Peut-être moins, ouais.
Non, c'est un peu précis. Et là, ça serait plutôt du lobby. Ouais. Et donc, je suis pas sûre que ce soit forcément le sujet. Non, mais par contre, s'il nous dit, voilà, j'ai un sujet, je travaille ma réputation parce que j'ai pas les sponsors que je veux.
Ouais.
Mon objectif, c'est que je veux, voilà, je veux être vu sur tel ou tel sujet. Bon, après, nous, on n'est pas là pour juger. C'est pas forcément très noble, mais c'est tout à fait respectable.
D'accord.
Et donc, on va l'aider. Il y a des techniques pour être vu, connu. S'il nous dit, moi, je veux plutôt... mon truc, c'est l'automobile et j'aimerais bien avoir des sponsors dans l'automobile. Bah, on va mettre en scène le fait que... Voilà, c'est quelqu'un qui montre son mode de vie. Je ne citerai pas de nom, mais vous voyez bien, il y a des footballeurs qui font ça, qui se filment dans leur villa.
Non, mais franchement, je sais pas. Bref, me dire en off.
Et donc... Et c'est très bien. Enfin, je veux dire, après, ils font du placement de produits. C'est un autre truc. Ah, mais c'est,
voilà. Ça peut être du temps aussi.
Et voilà, ouais, c'est pas des moyens pécuniers. C'est des moyens... je suis le conseiller de N'Golo Kanté. Je sais pertinemment, c'est un super joueur, un bon mec. Bon, j'ai discuté avec lui et il veut que sa notoriété explose. Ou du moins son image. Enfin, du moins, sa réputation explose. Je vous l'amène. Alors, comment on fait?
Cas pratique numéro 1 par Edouard.
Mais c'est facile, c'est facile.
Mais N'Golo, il n'a pas besoin d'exploser sa notoriété, il est extrêmement connu.
Ouais.
Et au contraire, sa réputation, on peut la considérer aujourd'hui comme excellente, puisqu'elle lui ressemble. Il est apprécié aussi bien par ses coéquipiers que par l'ensemble des Français qui maintenant quand même le connaissent pour ce qu'il fait sur le terrain, pour qui il est dans les vestiaires et aussi en dehors du terrain. Parce que lui aussi s'engage pour le harcèlement à l'école.
Ouais.
Je pense pas que ça soit un cas de réputation exploitée. Au contraire, il est en train de poser tous les jalons qui vont faire de sa réputation la plus solide parce que la plus sincère sur le long terme.
Il est authentique, ça c'est vrai.
Exactement.
C'est mon cas pratique, il fallait vous mettre un petit peu en difficulté. Bref.
Je voulais revenir sur le sujet qu'on a évoqué tout à l'heure autour de la politique, parce que j'ai l'impression que pendant très longtemps, c'était un sujet qu'on a essayé d'éviter. C'est-à-dire qu'en communication, il fallait s'éloigner de la politique et de prendre parti. Aujourd'hui, il n'y a plus le choix. C'est sur la table et au contraire, si on n'en parle pas, on est plutôt vu comme la personne qui ne veut pas se mouiller. C'est quand même extrêmement périlleux, le parti pris politique, surtout pour...
Super périlleux.
Et comment on le gère, ça? Parce que j'imagine que les gens qui viennent vous voir, et les sportifs, ils sont comme vous et moi, ils ont un avis, ils ont probablement envie de vouloir le dire. Comment...
Moi, je fais... Ouais, ne croyez pas que je suis obsessionnel de l'objectif, mais quand même un peu.
Il faut qu'ils disent, voilà, je veux en parler ou je ne veux pas en parler.
Non, mais pourquoi vous voulez en parler?
Ouais.
Donc, après...
Je vous pose la question. Pour tout vous dire,
si jamais vous étiez mon client, je vous dirais, et que vous n'avez pas envie de vous lancer en politique, je vous dirais d'éviter le sujet.
Alors.
Et donc, en fait, Victor va vous répondre mieux que moi, mais parce qu'il en fait beaucoup avec beaucoup de trucs.
Il botte en touche.
Non.
Il
va leur apprendre ce qu'on appelle, on leur fait faire des média training ou de l'apprentissage à la prise de parole. On va définir les sujets sur lesquels c'est mieux qu'il ne s'exprime pas parce que ça abîmerait son image ou parce que, pour des raisons contextuelles, enfin pour plein de raisons, c'est pas un sujet sur lequel il a envie de s'exprimer. Il sait qu'il va être coincé avec des questions non-stop. Donc, Victor les torture jusqu'à ce qu'ils apprennent à ne pas répondre. Ah
ouais. D'accord. Et donc,
et aussi maintenant, il y a aussi des actes. Enfin, les institutions aussi prennent leurs responsabilités par rapport à
bien
ça.
Sûr.
C'est qu'ils savent, comme on le disait tout à l'heure, que c'est un mouvement en fait qui est inarrêtable. Et donc, c'est dans l'intérêt de protéger les premiers actifs du sport football, les premiers acteurs du football, c'est quand même les joueurs. Et donc, c'est de la responsabilité aussi des instances que d'accompagner ce mouvement. Le syndicat des joueurs le fait, le NFP. La Ligue se positionne aussi depuis des années sur les sujets sociétaux aussi, via le président.
Pardon ? Je suis d'accord.
Ouais.
Mais néanmoins, la question, elle peut arriver à un moment donné.
Ah, mais elle
bien
arrive,
sûr.
Voilà.
Et donc, c'est comment le préparer au mieux pour,
Après, voilà. En fait...
Elle va arriver. Elle va arriver.
Elle va arriver. Donc, ce qu'on fait, en fait, Victor, souvent, avec... les joueurs, il va faire un truc qui est en établi. Donc, on a parlé tout à l'heure des éléments de langage.
Ouais.
Là, on va faire une liste des questions et réponses.
Ouais, good.
Et
donc c'est de la mise en situation.
Ouais, on va se dire,
voilà.
Mais c'est pas que leur apprendre à ne pas répondre. Hein. C'est pas un sujet d'exercice de langue de bois non plus, ça c'est fini. C'est plus sur cette question, qu'est-ce que tu répondrais? Et si tu réponds ça, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que tu veux répondre ça? Est-ce que tu veux répondre à cette question?
Réponse, ouais. Exactement. Afin que ça.
Et s'il nous dit, non mais moi, l'homosexualité, c'est compliqué par rapport à ma famille, par rapport à plein de trucs. Moi, j'ai pas tellement envie d'en parler. Ou au contraire, j'ai un frère ou une sœur qui est concernée. Ou moi-même, je suis concernée. J'ai pas envie qu'on rentre dans mon intimité. Comme on a déconstruit, on va travailler avec lui sur comment tu réponds pour te protéger.
Good. Voilà. Et de les mettre en situation réelle aussi. Répondre à un podcast ou répondre à une interview en live au 20h TF1 ou répondre à une interview papier où certains journalistes nous parlent aux joueurs de off, mais en fait, on sait que c'est récupéré pour l'information sportive dans le cadre d'une interview extra-sportive. Tout ça, on essaie de les prévenir et leur faire de la pédagogie sur toutes les situations réelles auxquelles ils peuvent être confrontés.
Très bien. Justement, j'ai une mise en situation un peu actuelle. Il y a ce hashtag immonde qui arrive aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui est boycott équipe de France, qui a été lancé par, vous pouvez l'imaginer, l'ultra-droite, parce qu'il y aurait trop de noirs en équipe de France.
Ouais.
Typiquement, vous avez un client.
Et surtout par rapport au sujet de ce soir.
Vous avez un client qui est en équipe de France. Ce soir, il joue France-Allemagne. Il est interviewé en post-match. Il y a de grandes chances qu'on lui en parle. Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que vous cherchez à le contacter en disant, écoute, il y a quand même eu ça, on risque de t'en parler ce soir
c'est notre rôle.
D'accord.
Parce qu'en plus, dans notre métier, il y a un énorme sujet, les outils nous servent à ça aussi. C'est pas seulement pour faire les audits, mais c'est aussi pour faire de la veille, pour identifier les sujets qui montent. Les outils aussi avec l'analyse et du jus de cerveau, parce qu'on a des consultants qui font l'analyse, mais on a aussi des analystes chez nous.
D'accord. On a des gens qui qualifient
vraiment bien le contexte, de voir quelles sont les thématiques, les acteurs qui s'expriment là-dessus. On peut sentir aussi les sujets qui viennent, et c'est notre responsabilité aussi que d'anticiper. Notre métier, c'est souvent, on dit que c'est un métier de l'ombre, mais c'est un métier surtout d'anticipation, plus que de l'ombre. C'est de pouvoir les aider à anticiper toute forme de situation. Et le sujet de ce soir, oui, notre rôle, ça aurait été de prévenir pas seulement un joueur, mais au moins toute l'équipe.
D'accord.
Et de pouvoir, dans la mesure du possible, leur donner les éléments de langage, mais leur les prévenir des questions potentielles qui pourront leur
être
posées.
La difficulté qu'on aurait eu, c'est qu'aujourd'hui, ils sont isolés, ils ont d'autres choses à faire, ils ont un match à gagner. Donc c'est compliqué parce que nous, on l'aurait vu venir, donc je pense qu'on aurait appelé... parce qu'on fait un truc fictif, je pense qu'on aurait appelé les dirigeants de l'équipe.
La Fédé, le syndicat, les agents.
Voilà, et on aurait préparé. Si normalement quelque chose comme ça arrivait, on les connaîtrait tous, et donc on saurait la sensibilité qu'ils ont chacun.
Si vous avez un client, tu lui envoies un WhatsApp,
sachant qu'il n'y a jamais, alors là c'est un autre sujet, ça c'est de la crise, la gestion de crise, honnêtement, il n'y a pas une stratégie. Enfin, les gens qui vous disent que c'est un peu comme l'histoire des moyens, mais les gens qui vous disent non, mais bon, il y a des recettes, il y a une stratégie, oui, il y a des techniques, il faut maîtriser les techniques, mais il n'y a pas une stratégie, elle correspond à votre client. Il n'y a pas un bon truc à faire au moment d'une crise. Il faut que ça corresponde à votre client, à son caractère, à son histoire, à son parcours, à la raison pour laquelle cette crise est arrivée. Et donc, a priori, on aurait connu l'ensemble des joueurs, ou admettons que ce soit pour un joueur, on le connaîtrait.
N'Golo Kanté.
Et ben, on lui aurait écrit peut-être quelque chose, parce que dans la journée, on n'aurait pas pu lui parler. Mais surtout, je pense qu'il nous aurait appelé. Nous, on n'aurait peut-être pas pu l'appeler, mais lui,
client.
Vous avez le réflexe.
En fait, quand on envoie une alerte, quand les clients ne sont pas à l'aise, ils nous appellent. Et comme il n'y a pas une bonne réponse, on travaillerait avec lui un peu en maïotique pour dire, OK, t'as envie de répondre quoi et tu te sens comment. Et le mec, il dit ça. Mais j'ai envie de lui casser la gueule. Bon, bah, tu ne vas pas le faire, ça. Ouais. Alors, on va plutôt travailler. Voilà. Enfin, bon. Et du coup, quand la question arrive, en fait, c'est beaucoup moins dramatique et beaucoup moins douloureux. Parce qu'en fait, vous l'avez préparé. Donc, à la limite, vous l'attendez même en disant je suis.
On va pas poser la question sur. Tu vois, c'est ce
non, mais dans le cadre d'un collectif comme ça aussi, c'est déterminé qui prend la parole.
Aussi, c'est pour ça qu'on aurait, je pense, appelé les dirigeants pour dire bon, la question, elle va tomber soir. Qui répond? Ça va être posé à votre collectif qui
arrive. Nice, c'était 2010, il y a 11 ans de retard.
C'est ce que j'allais dire. C'est un très bon cas pratique. Là, les signaux faibles, on aurait pu les anticiper. Déjà, sur la partie d'audit, c'est savoir, comme disait Véronique tout à l'heure, il y a une partie quanti de ce qui se dit sur quel réseau, etc. Mais aussi, quali, c'est que quand même, il y a un travail de sondage interne aussi à faire. On savait qu'il y avait des tensions au sein de la Fédé, qui sortaient dans les médias, ouais. etc. Donc, il aurait été notre rôle de pouvoir anticiper ces sujets, de se dire, en fait, il y a un sujet d'autorité au sein de l'équipe de France aujourd'hui. Peut-être que de lire la lettre au nom des joueurs, ça, c'est quelque chose qui abîme l'image.
Ça, c'est problématique pour le sélectionneur.
Ouais.
Mais je pense que quand ils se sont tous retrouvés dans le bus, un peu livrés à eux-mêmes, je pense qu'ils auraient pu faire un appel à un ami et ça aurait pu être sympa de dire, écoutez, voilà, je connais...
Ça arrive souvent, parce que
Backbone après... Consulting, je vais les appeler.
En fait, c'est difficile.
On a envie de faire ça pour, vous avez 10 minutes, qu'est-ce qu'on fait, quoi.
En fait, tous les moments de crise ou de tension comme ça, notre boulot, il est justement d'accompagner, parce que c'est un moment où vous n'êtes pas très objectif, ou soit vous êtes en train de grossir la crise. C'est l'exemple que donnait Victor de « je regarde un tweet ». En fait, en réalité, c'est Pimpin32 qui a dit ça et on s'en fout et personne ne l'a repris. Ouais. Mais il a utilisé des mots qui m'ont blessé, j'ai l'impression que... Ou ma mère me l'a envoyé en me disant « regarde, c'est horrible ».
La dimension émotionnelle.
Donc, faire redescendre. En plus, quand vous êtes dans une crise, vous avez toujours l'impression que vous êtes au cœur du cyclone, que vous êtes, enfin voilà, que tout le monde en parle. Sauf qu'en fait, souvent c'est quand même plus calme que ça n'en a l'air. Et puis après, l'autre chose, c'est aussi, au contraire, de vous faire prendre conscience que vous êtes en train de créer un problème, parce que vous êtes en boucle sur un truc et que on va regarder. Ça nous demande à nous quelque chose de plus difficile quand on est vraiment en période de crise, c'est que vous devez rester calme. Et faire preuve d'énormément d'autorité, ça peut sembler... Nous sommes sympathiques, là, mais en fait, on peut par moment être très... Non, il faut faire preuve d'autorité. Parce que du coup, là, dans le cas présent, évidemment qu'il n'est pas arrivé, mais si on avait eu ça, il y a forcément quelqu'un, surtout dans un collectif, qui va vous dire, mais c'est pareil dans un codir, oui, il faut faire ça, on va faire ça, voilà. Il faut qu'il y ait un chef. Dans le cas présent, il n'y avait pas de chef. Dans une entreprise, normalement, il y a un chef. Mais si c'est le chef qui a atteint, lui-même, il ne sait plus. Parce que quand vous êtes là...
Il est dans la lessive.
Voilà. Donc, notre boulot, il est aussi
de protéger le chef aussi.
Oui, de protéger, de guider un peu. Et donc, c'est pour ça que généralement, c'est mieux de travailler longtemps en amont. Parce qu'on ne découvre pas quelqu'un pendant une crise. Ça nous arrive, mais ce n'est pas l'idéal.
Alors, il y a un autre cas pratique.
Un qui a fait des bêtises.
On en retrouve quelques-uns, effectivement.
Jacques-Henri Hérault, c'est l'ancien président de l'Olympique de Marseille, qui a fait des petites sorties. Deux ou trois sorties un petit peu moyennes.
Genre ?
Je ne me rappelle plus exactement, mais c'était par rapport aux fans. Il s'est mis un peu à dos les fans. Il a dit ce qu'il pensait vraiment, je pense, sincèrement, c'est ça. Il a dit vraiment ce qu'il pensait, et puis ça a été mal perçu. Et on se rend compte que même un dirigeant peut perdre son sang-froid. Mais c'est juste après l'envahissement là de la commanderie.
De la commanderie.
Voilà. Donc là, il a fait des déclarations sous l'émotion. Je pense que ça aurait été de bon ton qu'il puisse avoir à un moment donné un conseil plutôt que d'y aller et dire pas de la merde, mais dire ce qu'il a dit.
C'est-à-dire qu'il était depuis le début de son mandat, Hérault, il a été dans la surexpression en fait. Et un peu enjoué de ce qu'il pense vraiment. Et en fait, quand il est arrivé à l'OM, c'était j'ai un amour infini pour le club. Il en parlait dans tous les médias de manière totalement disproportionnée, en utilisant les codes, en disant les Marseillais, c'est l'émotion. Il y a un rapport émotionnel tellement fort avec le club que je vais être dans la surémotion.
Il a fait,
mais c'est ça l'authenticité.
Il a fait l'erreur que tout le monde, tous les gens qui viennent à Marseille ou qui vont à Bastia, ces environnements un peu chauds.
Plus royaliste que le roi.
Ils font tout ça. Et c'est fou quand même qu'un mec comme lui, qui soit super, il est intelligent et il est mature aussi, à la cinquantaine, fasse ces erreurs-là et qu'il ne se fasse pas conseiller.
Mais on sait qu'il n'est pas conseillé.
Ouais. Ouais. C'est qu'ils ne sont pas conseillés les trois quarts du temps et ils font exactement ce qu'on dit depuis le début. Ils ne sont pas vrais, quoi. Quand il fait ça, ce n'est pas comme ça.
Il n'est pas comme ça. Parce qu'il va à Marseille.
Mais ça n'a pas de sens. Mais on ne va pas prendre l'accent. Vous n'êtes pas marseillais, vous n'êtes pas marseillais.
Moi, je n'ai pas pris l'accent.
Non, mais en fait, le truc, c'est que il y a quelque chose de spécifique avec les joueurs et le foot quand même, et particulièrement les dirigeants. Hein, je vais pas me les mettre à dos, mais ils sont un peu contents d'eux et ils pensent que le système, ils le connaissent depuis toujours. Plus ils sont âgés, plus ils vous disent ah ouais, mais moi je connais, ouais ça marche, ça a toujours marché comme ça.
J'ai fait du foot depuis l'âge de 8 ans.
C'est ça. Et le jeu, il me dit mais oui, mais d'abord tu n'as plus 8 ans, le foot a un petit peu changé, le monde a changé, le monde bouge en fait. Donc
c'est ce qu'ils disent. Je connais le milieu.
Alternative Football. je me permets de revenir sur un sujet un peu plus large. On a parlé tout à l'heure de la politique, en disant que c'est un sujet périlleux. J'en perçois un autre, c'est l'argent, qui va de pair avec le football professionnel, et sur lequel les footballeurs professionnels sont souvent interrogés. Mon expérience personnelle me fait dire que c'est un sujet toujours un peu plus difficile en France qu'ailleurs. J'imagine de fait que c'est quelque chose que vous abordez. Comment on l'aborde ?
Par rapport à ça, moi, il y a une vingtaine d'années, on est en 2001, il y a un joueur du Real de Madrid qui a été formé au Paris Saint-Germain et qui est revenu du Real de Madrid, qui s'appelle Nicolas Anelka.
Le grand Nicolas Anelka, si tu me permets.
Extraordinaire. Et en fin de compte, Nico arrive et il a une Ferrari rouge. On est en 2000-2001. Modena rouge, magnifique. Et bon, un match se passe, deux matchs se passent, trois matchs se passent. Bon, et il se fait critiquer parce que ben, on est en France, il a une Ferrari rouge et qu'il n'est pas performant. Et bon... On est deux, trois potes à lui. On lui dit, putain, Nico, c'est vrai que t'abuses un peu. Hein. Toi aussi, tu viens. On est sponsorisé par Opel, je crois, à l'époque. Et t'arrives avec une Ferrari. C'est pas très discret. Il me dit, Edou, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois, on connaît mon salaire, on connaît combien j'ai gagné. Si j'arrive avec une Renault 5, on va dire, Anelka, c'est un radin. Si j'arrive avec une Ferrari, il se la raconte. Donc, qu'est-ce que je fais?
Voilà, là, vous avez résumé.
C'est QFD. J'ai dit, rien à dire.
Ouais, vous avez résumé, alors d'abord on a appris que c'était Edou, votre surnom, ouais, donc voilà. c'est pas mal. Ouais. Mais vous avez résumé, c'est ce qu'on vous dit depuis le début, c'est sincérité, alignement et cohérence. Voilà, le mec qui gagne une blinde, il aime les voitures.
C'était extraordinaire.
C'est peut-être c'était... de l'assumer plus publiquement en disant, j'aime les Ferrari, je suis un fou de la Modena. Pour autant, je sais bien que mes performances ne sont pas au niveau. Il n'y a pas de corrélation et je travaille pour m'améliorer sur le terrain.
C'est énorme.
Et personne ne vous en voudra.
Non, mais il est en alignement. Et du coup, quand il m'a répondu ça, j'ai dit, ouais, c'est QFD. Et c'était clair, net et précis, c'est assumé.
Mais quand vous assumez, et du coup, on vous critiquera pas. L'argent en soi, c'est pas une fin. Donc si c'est juste pour dire je suis blindé, ouais, super. Mais voilà, si vous racontez la réalité de ce que ça vous apporte, même si vous êtes pas particulièrement généreux et que vous savez pas acheter de maison pour votre vieille grand-mère en Basse-Provence, quoi, c'est que vous aimez faire la fête, vous le dépensez, voilà. Mais il faut être cohérent. Et il y a des pays où ça passe plus ou moins bien.
Et d'autres.
Et globalement, surtout, c'est expliquer pourquoi c'est ça votre moteur. Si votre moteur c'est juste l'argent pour l'argent, le luxe pour le luxe, c'est sûr que ça va pas construire votre image de façon positive. Mais si c'est une passion, je sais pas, votre truc c'est les sacs à bain qui valent une blinde, c'est votre truc, quoi.
Ouais. Ton exemple et vos réponses m'amènent justement à une question. Et je trouve que Nicolas Anelka, c'est un très beau cas d'école. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'authenticité depuis tout à l'heure.
Ouais, mais il est authentique.
Il a toujours été hyper authentique. Ouais. Et pourtant, au-delà des partisans comme moi de la première heure, j'ai pas la perception que c'est quelqu'un qui a eu une bonne image, Nicolas Anelka, pendant sa carrière. Est-ce que c'est parce qu'il a été trop authentique trop tôt? Est-ce que parce que la notoriété passait aussi plus par les médias qu'avant, il n'a pas pu bénéficier de canaux directs? D'ailleurs, il a fait un reportage Netflix pour avoir un canal un peu plus direct récemment pour parler à son audience. Comment vous l'analyseriez, le cas Anelka?
Le cas Anelka, on pourrait le comparer entre Anelka et un joueur moderne, d'une comparaison dans la musique pop entre Britney Spears et Lady Gaga. Justement, ce que tu évoquais, c'est qu'avant, il y avait les canaux médiatiques étaient beaucoup plus contrôlés. Les médias avaient plus d'emprise. Il n'y avait pas d'interaction directe avec les fans. Et donc, en fait, Anelka, il souffrait d'une chose, c'est qu'il n'était pas son propre média, comme le peuvent être les joueurs, comme le rappelait Véronique, quand on voit la somme de millions de followers qu'ont les différents joueurs de l'équipe de France aujourd'hui. Et effectivement, on a souffert.
Et du coup, l'anecdote que vous racontiez, oui, il aurait pu la raconter lui-même. Là, quel est le média qu'elle allait le raconter? Aucun, ça ne les faisait pas du tout.
Non, au contraire, ils avaient une image. Il fallait donner une image de Nico.
Donc, tout ce qu'il a fait était parfait. Son sujet, c'est juste que c'était un peu tôt.
Ouais, c'est l'époque.
Et qu'il ne maîtrisait pas les canaux et qu'il ne pouvait pas parler aux gens en direct. Ouais. Et d'ailleurs, tous les gens qui le connaissent en direct disent « Mais le gars, il est super !» Donc, en fait, c'est juste ça, quoi.
Ouais. Je pense que les jeunes ne s'en souviendront pas, mais David Ginola, on est en 93.
Ça, ça me parle.
Il fait un centre exo 7 contre la Bulgarie et l'équipe de France. On est d'accord. 94, c'est ça? 94, Coupe du Monde 94.
C'est pour les qualifs de la Coupe du Monde.
C'est
donc,
ça, 94. Je te prends une colle parce que t'étais pas né, toi.
Je suis quand même.
T'es petit.
J'étais déjà fan de David Ginola. Je pense que le match devait être en 93.
Ouais, 93 pour la Coupe du Monde 94. Donc ils n'y vont pas et effectivement, ça restera.
Petite blessure.
Une grosse blessure. Ouais. Et comment on peut gérer ça?
Bah, c'est compliqué parce que là, pour le coup, alors d'abord, à l'époque, très compliqué à gérer parce qu'on l'a dit différents médias, mais admettons que ça arrive aujourd'hui, où vous avez quand même plus de moyens de vous exprimer. On disait, c'est compliqué parce que les gens, ils sont plus très rationnels. Il y a beaucoup d'émotions autour du foot. Donc, vous avez déçu des gens. C'est les crises les plus difficiles à gérer, c'est quand vous avez déçu les gens.
Puis on l'a. Il y avait qu'un seul, enfin il y avait qu'un canal. Je veux dire, c'est la presse et la presse était le bouc émissaire. Non, oui, il n'a pas pu répondre.
C'est pour ça que je vous dis. À l'époque, ça aurait été compliqué. Ouais. Même s'il avait fait une conférence de presse avec les bons éléments et tout, ça aurait été compliqué parce que les gens, il y avait la rancœur et de nouveau, quand je vous disais que pour la notoriété, c'est la répétition, la couverture, c'est vrai aussi quand vous voulez faire passer un message. Tout le monde ne va pas l'entendre au moment où il va le dire. Ouais. Tout le monde ne va pas forcément lire le journal. Voilà. Mais ça serait aujourd'hui, ça serait un tout petit peu plus facile pour maîtriser sa com, bizarrement. Pour autant, on a quand même le sujet de la déception. Les gens, ils ont attendu et là, boulette, et on n'y est pas à cause de toi, quand même. Voilà. Mais après...
Que la 10, c'est pas...
Que ça.
Ouais, d'accord.
Et donc, en fait, il y a un triptyque...
Véronique.
Véronique,
elle est un petit peu déçue. Elle se dit, David, t'es tellement beau.
Non, je n'ai pas digéré cette affaire. Voilà. Non, pas du tout. Non, il y a un triptyque un peu magique, et quand j'ai un peu magique, qu'on applique toujours, toujours en période de crise, et il aurait dû l'appliquer. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Donc, en fait, les gens qui écoutent ce podcast, on va leur donner un truc, parce que toutes les crises, que ce soit avec votre petite amie, ou que ce soit avec vos potes, ou que ce soit... voilà. Ce triptyque, quand vous devez donner une information, enfin, quand vous avez une crise, votre réponse, elle doit toujours se faire avec... D'abord, de la compassion.
Ouais.
Donc, les fameux, les fans qui sont déçus. La compassion, c'est peut-être que vous êtes d'accord. Hein. Vous êtes déçus. C'est horrible. Ce qui vient d'arriver est terrible. Enfin, vous pouvez mettre autant de mots que vous voulez parce que les gens, dans le cas présent, il y avait beaucoup, beaucoup d'émotions. Mais bon, admettons que nous parlions de la petite amie. Bah, la petite amie, vous l'avez trompée.
On a oublié de lui souhaiter son anniversaire. On n'est pas obligé de rentrer dans l'anniversaire.
Oui, c'est ça.
Alors, vous avez oublié l'anniversaire. Si vous ne commencez pas par la compassion, qui est donc de dire... Je comprends que tu es déçu. T'as vraiment l'impression que je t'ai oublié. T'as l'impression que tu comptes pas. Que évidemment, faut toujours que tu rappelles les choses et que c'est terrible et que vraiment t'existes pas pour moi. La deuxième partie de votre triptyque, l'information. Voilà ce qui s'est passé de façon factuelle. Voilà. Ben en fait, ce matin, je suis partie. J'ai fait quoi, et donc j'ai complètement oublié le jour où on était. Mais factuel. Ce qui s'est passé sur le match. Vous pouvez décrire tout ce qui s'est passé et toutes les raisons pour lesquelles
c'est un sport collectif.
Mais factuel. Factuel. C'est pas. Vous ne partez pas dans des explications. Ça, c'est un fait. Il n'y a pas de discussion. C'est un fait. Voilà. Ce matin, quand je suis partie, c'est un fait. Je suis partie à cette heure-là et je n'avais pas ma montre ou je n'avais pas je ne sais pas quoi. C'est un fait. Et la troisième, c'est action. Qu'est-ce qu'on va faire à partir de maintenant, ton anniversaire? Je vais mettre une alarme, à 20h de maintenant, ton anniversaire sera systématiquement sur une semaine. Je sais pas quoi.
Ouais.
Et dans le cas de Constantin Ginola, son action peut être de dire, à partir de maintenant, je vais travailler mon collectif plus fortement, on va pas se laisser. Voilà, les actions.
Je vais plus centrer.
Au pire,
à partir de maintenant, je me mets au rugby. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Et c'est, ce triptyque, il est important. Pourquoi il est important? C'est que si vous ne faites pas la première partie, la compassion, vous construisez sur du sable mouvant. Et très souvent, les crises, alors c'est vrai pour les footballeurs, mais c'est vrai tout le temps, si vous ne reconnaissez pas l'autre, bon, mais de toute façon, je vous écouterai pas. Si vous aviez pas dit à votre petite amie, vraiment, je comprends que tu sois déçue, mais elle vous écoute pas, de toute façon.
Ouais, il faut l'empathie.
Il faut reconnaître la réalité de ce que l'autre a vécu, de ce que l'autre a ressenti. Et souvent, les gens, ils confondent la compassion avec le pardon. Je te demande pardon. Je m'en fous que tu me demandes pardon. T'as pas fêté mon anniversaire, quoi.
Ouais.
Donc, s'il te plaît, commence pas à me dire pardon. De toute façon, tu fais toujours ça. Tu demandes toujours pardon et tu fais des trucs pénibles. Donc, si par contre, vous revenez en me disant, non, mais c'est Enfin, je suis vraiment ce qui vient d'arriver. T'as l'impression de. Mais ça y est, déjà, on a un bout du truc qui est. Je vous ai pas pardonné, mais déjà, il y a une base, on peut avoir une discussion. Okay. Et donc, voilà, bah, c'est pareil dans tu la crise, c'est pareil dans. Voilà. Vous pouvez le faire, vous pouvez l'appliquer à chaque fois. Si vous pensez à chaque fois, vous engueulez avec un pote, posez déjà, ouais, je comprends que t'es déçu, ouais, je devais venir à un truc sur Insta, ouais. Je comprends, je suis lourd. Enfin, voilà. Et après, l'information, c'est qu'il y a des bouchons et que vous êtes parti à telle heure. Et l'action, à partir de maintenant, je partirai plus tôt.
Et c'est une formidable conclusion au moment qu'on vient de passer ensemble. Comme ça, on part tous avec un petit doggy bag d'informations pour gérer les crises.
Voilà, la gestion de crise déjà.
Merci beaucoup à vous pour le temps que vous nous avez accordé. On a appris beaucoup de choses. Ouais. On a eu de belles anecdotes. Et on donne rendez-vous à tout le monde très vite pour de nouvelles aventures.
Exactement, à très vite.
Alternative Football. Alternative Football.
Alternative Football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Crois-moi, ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative Football.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.